Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Au cours d'émissions passées, nous avons réfléchi sur le sens de deux paraboles racontées par Jésus, qui nous enseignent des vérités spirituelles en prenant pour illustration des images tirées du monde de la viticulture.
Aujourd'hui, nous allons reprendre un thème similaire, car un jour, à la grande surprise de ses disciples, Jésus leur a annoncé « Je suis le vrai plant de vigne ». Que voulait-il dire par là? Nous allons le découvrir en compagnie de notre invité Alain.
Mais auparavant, écoutons la lecture du passage biblique où Jésus déclare être la vigne. Ce passage se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 17.
Je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres.
Merci. Et le moment est venu de souhaiter la bienvenue à notre invité Alain. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Jésus annonce qu'il est la vigne et que ses disciples sont les sarments. Pouvez-vous commencer par nous expliquer ce vocabulaire, car les mots « la vigne » et « les sarments » ne sont pas forcément bien connus de tous.
Oui, la vigne est un arbrisseau qui produit du raisin et les sarments sont les nouvelles branches qui poussent chaque année. C'est sur ces sarments que les grappes de raisin se développent. C'est la raison pour laquelle, après chaque récolte, le viticulteur taille les sarments, afin que l'année d'après, il repousse pour produire encore du fruit. Et bien sûr, pour produire son fruit, le sarment doit être attaché au tronc de vigne.
Merci pour ces explications. La notion de porter du fruit est très présente dans le discours de Jésus, et nous y reviendrons. Toutefois, le fait que Jésus affirme « Je suis la vraie vigne » peut sembler étrange. Qu'en pensez-vous?
C'est vrai, Yann, c'est pourquoi nous devons étudier ces paroles de Jésus dans le contexte de l'évangile de Jean. Remarquons toutefois que la formule « Je suis » suivie par un nom est souvent employée par Jésus. Par ce moyen d'expression, le Seigneur cherche à annoncer un message spirituel de la plus haute importance.
Citez-nous donc les autres versets où Jésus a recours à cette façon de s'exprimer.
En Jean 6, 48, Jésus dit « Je suis le pain qui donne la vie ». En Jean 8, 12, il dit « Je suis la lumière du monde ». « Je suis la porte », Jean 10, verset 7. « Je suis le bon berger », Jean 10, verset 11. « Je suis la résurrection et la vie », Jean 11, verset 25. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jean 14, verset 6.
Merci Alain. On ajoute aujourd'hui la déclaration de Jésus lorsqu'il dit « Je suis le vrai plante de vigne ». On peut dire qu'il aura utilisé cette formule 7 fois au total.
C'est exact, Yann.
Mais que signifie cette façon de s'exprimer et quelle en est son importance?
Dans l'évangile de Jean, la formule « Je suis » est présente pour évoquer le nom de Dieu. Car dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu se révèle à Moïse et qu'il lui dévoile son identité, il lui dit « Je suis ».
Donc, en utilisant cette formule « Je suis », Jésus rappelle le nom de l'Éternel, tout en suggérant que lui-même est ce Dieu présent parmi son peuple.
C'est exact, Yann. La plupart des formules utilisées par Jésus évoquent des métaphores, des illustrations qui s'appliquent à Dieu dans l'Ancien Testament. Par exemple, le roi David, dans le psaume 23, déclare « L'Éternel est mon berger ». Or, Jésus va affirmer dans l'évangile de Jean « Je suis le bon berger ». Voici encore un deuxième exemple. Dans le psaume 27, cette fois-ci, le roi David déclare encore « Dieu est ma lumière ». Or, Jésus affirme aussi être la lumière dans l'évangile de Jean. Nul doute, Jésus veut dévoiler sa véritable identité, il est Dieu avec nous.
Et son approche a dû choquer ses contemporains.
C'est exact. D'ailleurs, beaucoup de nos jours restent encore perplexes ou offusqués par ses affirmations. Toutefois, Dieu n'aurait jamais ressuscité Jésus d'entre les morts si ce dernier avait été un fou ou un blasphémateur.
Mais comment la déclaration « Je suis le vrai plante de vigne » est-elle frappante ici?
Il est intéressant de noter que les prophètes de l'Ancien Testament comparent souvent la nation d'Israël à une vigne. Ce peuple devait porter du fruit. Toutefois, les prophètes ont toujours dénoncé son manque de fruits ou son mauvais fruit. Certains prophètes ont même été jusqu'à déclarer que le jour viendrait où Dieu rejetterait sa vigne et qu'il la remplacerait par une autre. Alors, Jésus, en annonçant « Je suis le vrai plant de vigne », déclare que ce jour est arrivé. Si dans le passé, pour vivre une relation avec Dieu, il fallait appartenir au peuple d'Israël, dès lors, le jour est venu où il faut appartenir à Jésus, où il faut demeurer en lui pour porter du fruit.
Merci de nous avoir éclairé sur ce contexte biblique. Quelle conclusion bouleversante!
Oui, la leçon que nous devons retenir est celle-ci. Si nous voulons connaître Dieu, porter du fruit à sa gloire, nous devons nous attacher à Jésus et demeurer en lui. C'est incontournable.
Merci Alain. Nous devons nous arrêter là pour aujourd'hui, mais vous serez de retour parmi nous la prochaine fois. Nous aborderons alors des questions telles que « Que signifie demeurer en Christ ?» et « Comment demeurer en lui ?» Puis, « Quel fruit devons-nous porter ? Comment y parvenir ?»
C'est exact, Yann. À bientôt. Et au revoir à tous.
Nous voulons vous donner un avant-goût des réponses aux questions que nous venons de poser. Pour cela, nous allons nous appuyer sur deux textes de l'Ancien Testament. Ces textes contiennent une illustration qui fait appel au monde de la nature. Le premier texte se trouve dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8.
Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Et il ne cesse pas de produire du fruit.
Merci, Hélène. De quoi un arbre a-t-il besoin pour porter du fruit et résister à la chaleur du soleil? D'eau. Et ses racines poussent à la recherche de cette eau. Un arbre planté près d'un ruisseau est avantagé, car une source d'eau intarissable se trouve à sa portée. Voilà pourquoi le prophète compare les croyants à cet arbre. Le croyant est appelé à porter du fruit et à surmonter les épreuves de la vie. Comment y parvenir? Il ne pourra jamais y parvenir seul, tout comme un arbre qui n'a plus suffisamment d'eau finit par se dessécher et mourir. Il en est de même pour le croyant. Pour porter du fruit, il a besoin de Dieu. Il a besoin de connaître sa grâce et sa puissance, son amour et sa sagesse. Alors pour jouir de ses richesses, il doit, par la foi, se tourner vers Dieu. Il doit se confier en lui, admettre qu'il a besoin de lui, et avoir cette confiance que Dieu lui donnera, selon ses richesses, tout ce dont il a besoin pour porter du fruit. Mais comment demeurer en Dieu? En ayant soif de lui, en aspirant par la foi à marcher jour après jour avec lui. À présent, Hélène va nous lire un deuxième texte à ce sujet. Il se trouve au psaume 1, versets 2 et 3.
Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit.
Merci, Hélène. Vous constatez sans doute une ressemblance frappante entre ce verset et celui du livre du prophète Jérémie. En effet, ces deux textes comparent le croyant aux arbres plantés près d'un cours d'eau qui peuvent porter du fruit malgré la chaleur et la sécheresse. Toutefois, au cœur de ces deux textes, une différence existe. L'un et l'autre suscitent la question « Comment le croyant peut-il porter du fruit alors qu'il mène une vie chargée d'épreuves ?» Selon Jérémie, il lui faut mettre sa confiance en Dieu. Et selon le psalmiste, il doit méditer la parole de l'Éternel aussi régulièrement que possible. En fait, il ne s'agit pas là de deux chemins différents, menant chacun à la même destination, comme s'il y avait un choix à faire entre prendre le train ou prendre la voiture. Non, il s'agit plutôt là de deux démarches qui se complètent. Comment nourrir et fortifier sa foi en Dieu? Eh bien, en lisant la parole de Dieu et en l'écoutant, car alors notre confiance en lui s'affermit. De plus, cette confiance nous permet de porter du fruit, même dans l'épreuve.
Merci Yann pour ces pensées enrichissantes. Comme nous l'avons déjà annoncé, nous développerons cette méditation plus en détail lorsque nous continuerons notre série sur Jésus, la véritable vigne.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.